Au rythme du parc. Une émission dédiée au parc du Vercors et à son actualité. Produite par Erdiwa et financée par le parc naturel régional du Vercors. Au rythme du parc. Comme si vous y étiez. Bonjour à tous, ici Aurélie pour Erdiwa sur le 107.5 FM et sur le site www.rdwa.fr aujourd'hui. Dans ce numéro au rythme du parc spécial, les 14e rencontres nomades de l'Anse-en-Vercors, je m'entretiens avec Philippe Anu du CPIE Vercors. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Alors, pouvez-vous nous expliquer ce que sont ces rencontres nomades?
Alors, l'idée force de cette journée, c'est... qui est organisée alternativement en Drôme et en Isère, c'est de rassembler alors le plus grand nombre d'individus issus à la fois du monde de la recherche scientifique, des institutions culturelles ou territoriales, et puis, dans un esprit d'éducation populaire, les habitants du parc du Vercors, de tous les territoires qu'on essaie de rassembler en un lieu précis que l'on prend d'assaut une fois par an.
Donc là, hein, c'était le 23 mars, l'Anse-en-Vercors.
C'est ça. L'Anse-en-Vercors et les quatre montagnes.
Voilà. Qui a porté ce projet?
C'est un projet qui est né au départ dans la tête des animateurs du CPIE, qui consistait à construire un temps fort annuel où on fédère des gens qui habitent le territoire du parc, qui ne connaissent pas forcément très très bien ce territoire et qui par ce type d'événement peuvent le découvrir.
Donc pour nos auditeurs, un CPIE, Centre Permanent d'Initiative pour l'Environnement, comme ça à titre informatif. Alors lors de la conception ou même le jour même, le jour J, quelles ont été les difficultés rencontrées ou les points de blocage?
Alors la difficulté principale, c'est celle qu'on pourrait appeler le surgissement. C'est-à-dire comment inscrire un événement dont la périodicité n'est qu'annuelle à l'échelle d'un territoire qui comporte 85 communes, donc un événement qui n'est pas forcément identifié par les acteurs locaux, comment est-ce qu'on fait en sorte qu'il puisse prendre sa place dans l'échiquier local qui en général est saturé d'offres socio-culturelles ou politiques. C'est pas spécifique à l'Anse-en-Vercors, la question se pose partout, c'est-à-dire que c'est un événement qui, soyons sincères, qui n'est pas forcément attendu par le commun des mortels, que nous on porte avec un esprit volontariste, et qui parfois rentre en concurrence avec des initiatives locales, et l'idée qui est la nôtre, c'est de passer de la concurrence à la coopération, ce qui ne va pas forcément de soi.
Quels ont été les moyens matériels et humains mis en œuvre?
Là on a bénéficié cette année d'une formidable mécanique qui était l'aide du LABEX, ITEM, donc Laboratoire d'Excellence Innovation Territoire de Montagne de l'Université, des universités de Grenoble et de Chambéry, qui ont apporté leurs compétences de chercheurs, mais aussi leur énergie collective, puisqu'on a essayé vraiment d'ouvrir un espace mutualiste de coopération entre l'institution Parc, une association partenaire, le CPIE, des associations locales, en particulier l'Office de Tourisme de l'Anse-en-Vercors, la Maison pour tous, des Quatre Montagnes, etc., etc. Donc vraiment, c'est une fusion à la fois d'institutions de recherche territoriales et d'initiatives plutôt émanant de la sphère associative. Voilà pour les moyens humains. On a la chance d'avoir eu la possibilité d'utiliser différentes salles de la commune de l'Anse-en-Vercors, de bénéficier de l'aide technique aussi des services municipaux. Ça, c'est pas rien.
Très bien. Alors, moi, j'ai l'impression que c'est positif, mais pour nos auditeurs et à ce stade de l'aventure, en sachant que ça s'est déroulé donc le 23 mars, pouvez-vous évoquer les rencontres nomades en termes de réussite ou bien d'échec?
C'est Michel Mirena, on va pas faire un satisfait. C'est toujours, moi, je trouve que c'est toujours intéressant de mettre en place et de réfléchir à un événement de cette nature-là. Sur l'échelle du Vercors. Nous, on pourrait se dire, on a un public important, on a plus de 150 personnes qui ont fait le déplacement à cette occasion, donc on peut dire que du point de vue du succès populaire, c'est une réussite. Après, si on est tout à fait sincère et puis on gratte un peu le vernis, il y a un vrai enjeu pour nous qu'on a du mal remplir, enfin, c'est la question de ce qu'on appelle parfois les publics éloignés ou les gens des milieux populaires. C'est-à-dire qu'on on a plutôt un public d'intellectuels ou de gens qui sont coutumiers des pratiques culturelles ou qui sont des compagnons de route du parc, et on a un peu du mal à mobiliser, mais c'est pas spécifique à notre action à nous, hein, des gens qui seraient peut-être plutôt des gens qui ont du mal à franchir la porte d'une salle de spectacle, d'aller au théâtre. Il y a des interdits symboliques et on n'a pas réussi à les dépasser, voilà, pour être tout à fait sincère.
Bon, l'année prochaine.
L'année prochaine, on essaiera de faire mieux, oui.
Allez, afin de partager un petit peu votre expérience, pourriez-vous, Philippe, nous donner vos coordonnées ?
Oui, alors, téléphonique d'abord, hein, 04 76 94 30 44, et puis quoi, un courriel ?
Un mail peut-être, oui.
Voilà, donc Philippe, un L2P, point, donc H-A-N-U-S, arrobase CPIE-Vercors.asso.fr.
Très bien, je vous remercie, hein, Philippe, de toutes ces précisions. Et puis,
merci Aurélie.
À une prochaine fois.
À une prochaine fois.
Au revoir.
Au revoir.
Toujours dans ce numéro spécial, le 14e rencontre nomade de Lens en Vercors, j'ai le plaisir de recevoir Jean-Michel Roux, professeur à l'Institut d'urbanisme de Grenoble. Bonjour Jean-Michel.
Oui, bonjour.
Pouvez-vous vous présenter peut-être et puis nous expliquer un petit peu le rôle que vous aviez lors de ces rencontres nomades ?
Je m'appelle Jean-Michel Roux, je suis maître de conférence en urbanisme à Grenoble, à l'Institut d'Urba. Et dans le cadre de la préparation de cette journée, là, des 14e rencontres nomades, j'ai organisé avec ma collègue architecte qui s'appelle Gabriela Trotta un atelier d'urbanisme au cours du premier semestre, donc qui allait de septembre à décembre, et qui a constitué un des éléments de cette journée.
Donc il consistait à quoi cet atelier concrètement ? Quelle était la demande ?
Alors concrètement, il y avait effectivement une demande, il y avait même une commande, c'est-à-dire qu'on a proposé aux étudiants de travailler non pas pour avoir une note, mais pour répondre à une commande professionnelle, commande qui était en fait portée par trois acteurs, qui étaient CPIE, de Philippe Anu, qui étaient le Labex ITEM, et le Labex ITEM, c'est un laboratoire de recherche spécialisé dans les questions d'innovation de territoires de montagne, sur Grenoble et Chambéry. Et le troisième, on va dire, commanditaire, c'était la DRAC, à travers une de ses ethnologues qui s'appelle Marina Choyac. Donc ça c'était la commande, et la commande était la suivante. Sur le canton des Quatre-Montagnes, donc dans le Vercors Nord, essayer de comprendre les évolutions socio-démographiques qui sont actuellement à l'œuvre dans le territoire, et essayer de voir en quoi ces évolutions impactent aujourd'hui la culture locale et la population et les représentations qu'elles se font de ce territoire.
Qu'est-ce qu'elle dit, cette évolution démographique ? Qu'est-ce qu'elle raconte ?
D'abord, elle raconte que le territoire bouge de façon plus rapide peut-être qu'on ne pense, et de façon assez subtile. C'est-à-dire que c'est assez compliqué de voir qui vient, qui part. Assez compliqué de qualifier aussi les populations qui bougent sur ce territoire, puisqu'il y a des gens qui grandissent sur place, il y a des gens qui partent et qui reviennent. Il y a des gens qui arrivent de l'extérieur, d'un extérieur proche ou très très distant. Et donc du coup, un territoire qui bouge et qui invente aussi de nouveaux rapports à la culture, ce qu'on nous demandait d'un petit peu de regarder. Un rapport aussi qui est aujourd'hui, qui échappe parfois aux écrans radars des institutions locales, même les plus pertinentes comme les collectivités ou comme le parc naturel ou le CPE. Et donc une des demandes, c'était d'essayer d'aller un peu à la rencontre de ces populations et d'essayer de comprendre un petit peu comment ce territoire bouge.
Combien de temps ces élèves se sont-ils intéressés à ces questions ?
Alors, l'atelier a commencé en septembre et il s'est terminé en décembre, début décembre, ce qui est un temps pour un travail étudiant qui est relativement court, parce que généralement, les étudiants ont toute l'année pour travailler sur un territoire aussi complexe que celui-là. Mais là, les contraintes de la licence 3 font qu'ils ont moins de temps. Et ce temps-là, ces 3 mois, grosso modo, ça correspond à peu près à ce qu'on a quand on est urbaniste et qu'on répond à une commande. Donc pour nous, il y avait une contrainte de temps et puis une richesse, parce qu'on les met vraiment dans une situation, une commande d'acteurs locaux et un temps qui est contraint. Voilà. Donc ça a duré de début septembre à début décembre.
Que deviennent les résultats de cette étude ?
Alors les résultats de l'étude, tout d'abord, ils ont été rendus sous forme d'un rapport qui est assez classique dans ce type de travail, aux commanditaires. Et puis, ils ont été présentés dans le cadre de la journée, alors présentés sous deux formes. D'abord, il y a eu des planches de projet et une vidéo qui a été faite à partir du travail d'atelier et qui ont été là aussi remises aux commanditaires. Donc, si je dis pas de bêtises, là, les planches seront visibles à la bibliothèque municipale de l'Enfant Vercors, et ainsi que la vidéo pendant quelques semaines à partir de très bientôt.
Alors aujourd'hui, la restitution s'est déroulée un samedi. Réussite ou bien échec ?
Moi, je pense que c'est une véritable réussite pédagogique, même si le contexte était un petit peu compliqué, parce que pour la première fois, on avait ces doubles ou triples commandes, et les étudiants, dans un premier temps, ont eu du mal en fait à faire face à un commanditaire réel, et puis surtout un commanditaire qui est multiple. Et donc il y a eu des moments dans l'atelier où pédagogiquement c'était pas évident, parce que ce qui pouvait apparaître comme des avis contradictoires entre les commanditaires et les enseignants, ce qui pouvait apparaître comme parfois des retours en arrière quand le commanditaire nous disait suite à ce premier rendu, on pense que vous devriez réorienter un petit peu le travail dans telle ou telle direction. Donc, toutes ces petites choses ont pu apparaître pour certains étudiants comme étant des incohérences, une cacophonie de la part du commanditaire. Mm-hmm. Et progressivement, enfin surtout à la fin de l'atelier, ils se sont aperçus qu'en fait c'était comme ça que fonctionnait réellement une commande réelle, quoi. Avec des allers-retours, une itération entre un besoin d'un commanditaire qui s'affine et puis la nécessité d'adapter des méthodes. Donc là, pédagogiquement, ils ont appris quelque chose. Je pense qu'ils ont aussi appris quelque chose au niveau des grilles de lecture pour comprendre le territoire. Certains d'entre eux s'attendaient à faire un atelier assez classique. Alors assez classique, ça veut dire regarder de façon thématique le territoire. Par exemple, les infrastructures routières et ferroviaires, les questions d'habitat-logement, les questions d'histoire et de patrimoine. Et on s'est aperçu très tôt, en co-construisant l'atelier avec le CPIE et le LABEX, qu'une telle entrée en matière sur un territoire comme le Vercors n'allait pas fonctionner. Pas fonctionner parce que le Vercors, c'est probablement le territoire de l'Isère qui est le plus connu, le plus parcouru par des chercheurs, par des praticiens. Il y a un nombre incalculable de thèses, de mémoires qui ont été soutenues là-dessus. Et donc du coup, il y avait pour nous le risque que les étudiants, en se plongeant là-dedans, aient un regard formaté sur ce territoire. Or, quasiment aucun d'entre eux sur les 50 ne le connaissait. Sur les 50, il y avait deux skieurs et surfeurs qui étaient déjà allés là-haut pour des pratiques sportives. Et tous les autres n'y étaient jamais allés. Donc ce qu'on a plutôt proposé, on leur a demandé d'aller dans un premier temps à la découverte du territoire, sans rien en lire, sans rien en savoir, pour simplement le ressentir. Donc le premier exercice qu'ils ont fait, c'était tout simplement un exercice où ils se répartissaient en groupe, et ils partaient d'une ville et ils allaient à une autre, mmh. d'un village à un autre. Et on leur demandait, à travers leur corps, à travers leurs yeux, le toucher, ce qu'ils entendent, de collecter un maximum de représentations sur ce territoire. Et seulement dans un deuxième temps, on leur a dit maintenant, vous pouvez lire des choses. Voilà, donc c'est dans la méthode aussi pédagogique qu'il y a eu une petite innovation, on va dire, puisqu'on a décalé la grille de lecture parce qu'on pensait que ce territoire ne se prêtait pas à une analyse classique. Mmh. Et puis après, dans un deuxième temps, on leur a demandé de produire une analyse, non pas là aussi thématique, qui risquait de devenir une sorte de synthèse de ce qu'ils avaient pu lire ou voir, mais plutôt de rentrer parce qu'on appelait nous des couples antinomiques. On leur a demandé d'analyser ce territoire à partir de trois couples qui sont le dessus, dessous, dedans, dehors et devant, derrière. Alors si j'explique un peu plus en détail, dessus, dessous, par exemple, on leur a demandé de relire tous les thèmes et de regarder à travers ce couple qu'est-ce que ça produit. Par exemple, ça produit que le dessous, dans le Vercors, c'est un sous-sol fait de matières très particulières, un sol qui absorbe l'eau, donc du coup un territoire qui est finalement assez peu humide alors qu'il reçoit beaucoup de précipitations, Et ce sous-sol produit un sol très particulier qui va orienter des activités, qui va permettre ou pas tel ou tel type d'activité agricole. Donc ils sont rentrés là-dedans. La question du devant derrière, c'est aussi par exemple la question de qu'est-ce qu'on donne à voir dans ce territoire. Donc on leur a demandé d'aller dans les villages, parcourir ces villages dans l'espace public et regarder les mairies, regarder les monuments morts, regarder la rue, regarder comment les places sont aménagées par les mairies, mais aller aussi à l'arrière de ces espaces, rentrer dans les cours, aller au bout des impasses, rentrer dans les chemins et regarder le territoire de derrière. Et tout ça, ça leur a permis d'avoir une vision un tout petit peu différente du territoire. C'est un atelier qui a produit assez peu de passages au projet, parce qu'on avait, on n'avait pas beaucoup le temps, mais plutôt ils ont produit quelques clés pour relire les projets qui pourraient se faire ou qui se font peut-être actuellement dans ce territoire. Et je donne, il y a l'exemple du téléphérique, mais on ne va peut-être pas développer aujourd'hui là-dessus, mais la question des routes. On est sur un territoire où le constat est qu'il y a très peu de routes pour monter dans le Vercors Nord, que ces routes ont des qualités, elles ont des défauts, et que ces défauts pourraient amener les autorités locales à engager des travaux dans les années à venir qui pourraient être assez lourds pour agrandir les routes, par exemple, pour les sécuriser, comme la route des gorges de la Bourne. Et donc les étudiants se sont interrogés à partir de ces couples. Qu'est-ce qu'on pourrait en tirer en termes de conseils, de recommandations d'aménagement ? Par exemple, ce qu'ils ont observé, c'est que les routes du Vercors, elles ont deux qualités. C'est qu'elles sont soit panoramiques, et elles ont été tracées de telle sorte à ce qu'on soit au-dessus du paysage et qu'on puisse le contempler. Et cette possibilité de contempler un paysage proche et distant, c'est une grande qualité qu'on trouve à ces routes. Et la deuxième qualité, comme dans les gorges, ou à Engin, par exemple, c'est qu'on est dans le territoire. On passe sous la roche, on passe au cœur de celui-ci. Et qu'aujourd'hui, les routes telles qu'elles sont tracées par les ingénieurs, avec toute la qualité qu'elles peuvent techniquement avoir, elles vont éviter tout ça. Elles vont passer en tunnel, viaduc, mais elles vont passer de telle sorte à ce qu'on n'aura plus cette impression du corps d'être dans ou au-dessus du territoire. Et donc, c'est tout simplement une des recommandations que les étudiants pouvaient faire, c'est si on doit faire des travaux sur ces routes, pensons aussi à comment le corps va être mis en mouvement dans ce territoire.
Allez, si toutefois l'un de nos auditeurs était intéressé par la question de l'urbanisme sous tous ses angles, qui pourrait-il contacter afin d'obtenir des renseignements ?
Ben moi-même ou ma collègue Gabriela Trotta à l'Institut d'urbanisme de Grenoble. C'est jean-michel.roux, roux R-O-U-X, @upmf, comme Université Pierre Mendès France, -grenoble.fr.
Ok, mais je vous remercie Jean-Michel de toutes ces précisions. Hein. Bon vent à vos élèves et à toutes vos entreprises. Merci de vous être prêté au jeu de l'interview.
Merci à vous de nous avoir appelés surtout.
Au revoir.
Au revoir.
On va reprendre. Manzoni, si. je vous appelle par vos noms. C'est, ton accent est super, mais par contre, dans le parcours du personnage, c'est au moins un troisième génération.
En Italie, on garde ses valeurs, tu sais.
Ouais, mais c'est juste si tu peux l'atténuer à peine, qu'on sent qu'il est intégré.
Dans tous les autres cas, P faux, Q faux, P vrai, Q vrai, P faux, Q vrai, elle est vraie.
La croix, toi, t'apprends souvent des choses ?
Moi, je me cache un peu derrière l'éloquence.
Ah, ça, c'est un personnage. C'est carrément, c'est brechtien, ça, c'est de la distanciation. C'est le personnage qui se met à faire critique de lui-même. C'est super.
C'est important, l'éloquence. C'est beau.
C'est plus écrit dans le texte, hein, vous assistez à. Bon, François, tu peux reprendre ?
pour terminer ce numéro spécial Rencontre Nomade, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Max Bouvard de la compagnie Gravitation qui nous proposait leur spectacle Le Village d'à côté, dont vous venez d'ailleurs d'entendre un extrait. Bonjour Max.
Bonjour.
Alors dis-moi, qu'est-ce qui fait que vous êtes présent sur les 14e Rencontres Nomades ?
Eh bien, c'est une sollicitation de la part du CPIE. C'est Philippe, plus exactement, du CPIE, qui avait déjà vu notre boulot sur cette démarche un peu particulière qu'est le village d'à côté, et qui avait bien envie de le confronter avec le journée de Rencontre Nomade autour de la thématique de la culture de montagne.
J'ai vu quelques petites vidéos hein, sur Internet, en tout cas celles que vous proposez sur votre blog, qu'on pourra citer en fin de sujet. Et d'après ce que j'ai compris, hein, le village d'à côté, c'est un spectacle interactif, mais pas que, puisque depuis le stade de l'écriture, les habitants du village, occupés, entre guillemets, bien sûr, participent au projet. On peut en parler ensemble ?
C'est un spectacle qui a quelque part une partie qui reste fixe d'une représentation à l'autre, et puis toute une partie qu'on laisse libre et qu'on réadapte à chaque fois qu'on joue dans un village. C'est-à-dire qu'on arrive dans le village le lundi pour y jouer le samedi, on vient à 3. Le lundi soir, on demande à être accueilli par un apéro avec les habitants qui veulent bien nous accueillir. Et puis, ces habitants-là constituent notre premier cercle, on va dire. Et à partir d'eux, on va à la rencontre d'autres habitants, en essayant toujours d'aller à la rencontre aussi d'habitants un tout petit peu plus éloignés de la chose culturelle, on va dire. Et voilà, on a un scénario qui nous aide dans ça, c'est-à-dire que le personnage que j'interprète s'appelle Bernard Krops, il est missionné par une boîte d'audit pour intervenir sur un village qui a été placé sous tutelle de la préfecture suite à un problème d'héritage dans le village. Le conseil municipal a explosé et donc on fait intervenir ce Bernard Krops. Et comme il ne peut pas intervenir sur le village où se situe le problème, il se reporte sur le village d'à côté, partant du principe que les habitants du village d'à côté ressemblent aux habitants du village d'à côté. Mmh. Et donc, ils mènent une enquête auprès d'eux, on s'amuse avec la socio, la psycho, on s'amuse avec tout ça, on mène une enquête auprès des habitants, c'est plein de second degré, et en même temps, on va y chercher plein de vrai là-dedans. Ce qui nous intéresse avant tout, c'est ce fameux concept du vivre ensemble et du lien qui se déroule entre les gens.
Oui, mais je voulais revenir, hein, donc ça on en est déjà à la phase de jeu, hein, là où visiblement, donc cette pièce qui se déroule en deux actes, la première partie donc fixe, hein, le scénario qui ne change pas, et la deuxième partie où là vous faites appel justement aux ressources que vous aurez récupérées hein, en amont avec ces habitants. Qu'est-ce que vous leur demandez à ces gens ?
Ce qu'on leur demande, on fait entre 6 et 8 portraits vidéo pendant la semaine qu'on transforme en un film d'une quinzaine de minutes. Et la question centrale, c'est que le personnage leur demande conseil pour retisser le lien. Donc suivant quelle personne on interview, c'est suivant la position d'où il nous parle, forcément si c'est le maire ou si c'est l'épicière, ou si c'est un paysan, ou si c'est un cadre qui travaille en ville et qui vit dans ce village-là, forcément la réponse s'en trouve un peu transformée. Mais c'est surtout, qu'est-ce qui fait le lien ?
Ouais, oui.
Comment eux, ils travaillent sur le lien, voilà.
D'ailleurs, donc, vous réinventez un petit vocable hein, où on entend des natifs furtifs, des natifs tout court, des ruraux migrateurs, natifs héroïques ou bien encore des ubès. Est-ce que tu peux nous donner une ou deux définitions comme ça ?
On part de deux catégories principales qui sont les néo-ruraux et les natifs. Donc ça, c'est des catégories qui existent réellement. Et puis après, on s'est amusé à les décliner parce que c'est surtout... C'est l'histoire de ces catégories, on n'arrive jamais à mettre les gens dans une case précise. Donc nous, on s'amuse avec ça pour essayer de décortiquer un maximum les natifs furtifs. Ce qu'on appelle les natifs furtifs, c'est des natifs du village qui sont partis qui sont partis pour leur carrière professionnelle, pour leur amour, etc. Et puis qui ont conservé une maison, une résidence secondaire sur le village, une maison de famille, donc qui reviennent plutôt le week-end. Donc eux, on les met dans la case des natifs furtifs. Mmh. Et on part du principe que les natifs furtifs sont souvent un peu plus conservateurs sur les valeurs rurales du village que les natifs qui vivent réellement dans le village. Où les natifs héroïques, c'est les natifs qui ont un homonyme à eux qui figure sur le monument aux morts.
Oui, c'est ça.
Ça, c'est les natifs héroïques. Et souvent, je leur conseille de se présenter à la mairie parce que c'est une très bonne façon de recueillir des voix quand on a un homonyme sur le monument aux morts. Les UB, c'est les urbains bucoliques. C'est les urbains, là, à l'Anse-en-Vercors, c'est les gens de Grenoble qui étaient montés pour le week-end. C'est les urbains qui ont besoin de voir un peu de vert de temps en temps.
Mmh. En tout cas, j'imagine hein, que le public s'y reconnaît. Et quels sont leurs retours? Comment ils vivent un petit peu l'aventure du village d'à côté?
Ils sont très positifs. Et ils sont un petit peu désarçonnés au début parce qu'ils viennent à un spectacle et qu'on se place dans un rapport au public différent. Déjà, ça prend notre soirée et la soirée spectacle qu'on organise à la fin. À la forme plutôt d'une réunion. Le personnage leur dit qu'ils sont surtout pas là pour être spectateurs, mais pour lui venir en aide, parce que lui, il a un rapport à rendre au préfet et que ce soir, voilà, ils sont là pour l'aider. Et ils sont très souvent sollicités pour répondre à des questions. On fait des enquêtes sociologiques en direct. On leur demande leur niveau d'études, par exemple, assez vite, ce qui désarçonne beaucoup, et petit à petit, ils rentrent dans le jeu, enfin même assez vite, parce que le second degré est affiché d'emblée, le ridicule est endossé par le personnage de cette boîte d'audit, et puis ils se rendent vite compte qu'on s'amuse avec tout ça pour aller titiller du vrai et du sensible qui se cache derrière ça. En plus, nous, on s'amusait à mêler beaucoup le vrai et le faux, c'est-à-dire que au cours du spectacle, par exemple, j'évoque souvent mon père. Enfin, le personnage évoque souvent mon père, mais ce père-là est mon vrai père à moi. Donc, je passe par exemple un entretien que j'ai fait avec lui autour de la question de l'héritage et du patrimoine, et qui est un entretien qui est très touchant. Donc, voilà, il y a plein de passerelles comme ça entre le vrai et le faux, le sensible et le drôle. Donc le public embarque assez vite dans cette odyssée.
Oui. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous vous êtes dit avec la compagnie Gravitation, bien voilà, nous, cette vie rurale, on va essayer de la mettre en avant, ou enfin peut-être que le but est tout autre, ouais. Hein, mais de quel constat ça part?
Alors, plusieurs choses. On a conçu ce spectacle avec Jean-Charles Thomas, donc qui lui est plutôt dans la partie mise en scène, écriture, etc. On l'a conçu à deux. Lui vient plutôt d'un univers urbain et est devenu un néo-rural dans un village de Franche-Comté. Moi, je viens d'un univers totalement rural, d'un village de 25 habitants, et maintenant j'habite dans la métropole lilloise. Donc ça s'est croisé là-dessus. Et puis, donc je crois qu'on avait envie de parler de ça. Et l'autre chose, c'est que dans la compagnie Gravitation, ça fait 15 ans qu'on travaille beaucoup autour de la question du lien. On part du principe que si on fait du théâtre, on peut pas se contenter de l'art pour l'art. Nous, on n'y arrive pas. On n'arrive pas à se dire que nous sommes des artistes et ça suffit à nous donner une raison pour faire du théâtre. On a besoin de raisons,
d'engagement,
de raisons pour exercer ce métier particulier. Et l'une de ces raisons, c'est aussi de créer du commun, quoi. Mmh. De créer du commun, mais un peu au-delà de simplement le fait de l'art qui fait le commun, ça ne nous suffit pas. Donc c'est pour ça qu'on aime bien aller titiller ces questions. C'est très souvent que les créations qu'on fait dans cette compagnie se nourrissent d'actions sur le terrain, d'actions culturelles, comme dit ce grand mot. C'est comme une mini-action culturelle qui se déroule pendant une semaine. On débarque pendant une semaine à Troyes, et puis on parle de la question du lien, on cherche des réponses à la question du lien, et tout en parlant, tout en cherchant des réponses, on crée du lien. Mmh. Et puis tout ça se concrétise lors de la dernière soirée.
Quelques actus pour la compagnie Gravitation?
Des actions culturelles qui se passent pas mal, mais sur Besançon et la région de Besançon. Sinon, l'actu un peu plus large, c'est que peut-être. On joue à Chalon-sur-Saône au festival de Chalon dans la rue au mois de juillet. Un spectacle qui s'appelle Monsieur Krops. Donc il a le nom du personnage du village d'à côté, parce que c'est le même personnage au départ, sauf que ce Monsieur Krops-là est un entrepreneur utopiste qui décide de monter une entreprise de fabrication de montres en bois en s'inspirant beaucoup de l'expérience du Familistère de Guise dans l'Aisne, qui était la fabrique de poils Gaudin. Et donc c'était une entreprise où les gens travaillaient ensemble et vivaient ensemble dans la même maison. Et donc ce monsieur Krops-là, lui, il rêve de ça et il réunit un collectif. Et le spectacle, ça consiste en la 18e réunion de ce collectif. Le collectif étant bien entendu le public, il y a des comédiens qui sont dans le public comme membres de ce collectif. Et cette réunion porte sur le fait qu'il faut maintenant que ce collectif se décide sur la taille de leurs appartements, à savoir est-ce qu'ils décident tous d'avoir des grands appartements avec très peu d'espace pour la vie collective, ou est-ce que c'est l'inverse ? Est-ce qu'ils décident tous d'avoir de petits appartements avec beaucoup d'espace pour faire des choses ensemble ?
Un contact peut-être pour la compagnie Gravitation, si toutefois l'un de nos auditeurs était intéressé par ce type de projet ?
Faut passer par le net, c'est le plus simple. C'est-à-dire, c'est soit vous tapez compagnie Gravitation ou gravit.org et vous tombez sur le site assez fourni de cette compagnie. Et puis, par rapport au projet du village d'à côté, si vous tapez le village d'à côté, vous allez tomber sur le blog où on tient une chronique de tous les villages qu'on traverse avec cette belle aventure-là. Je crois que Lens-en-Vercors, ça devait être le 14e ou le 15e.
Voilà. Super. En tout cas, Max, merci de t'être prêté au jeu de l'interview. Et puis, je souhaite bon vent à la compagnie Gravitation et à tous ses projets. Et à bientôt.
Et bien, à bientôt. Merci beaucoup.
Bye. Merci d'avoir écouté Au rythme du parc, consacré aux rencontres, aux 14e rencontres nomades de Lens-en-Vercors. Ce numéro est donc désormais disponible sur le site www.rdwa.fr dans la rubrique Au rythme du parc, et ce de manière illimitée. Moi je vous dis à dans un mois, et merci d'avoir écouté RDWA. Bye.